Vous écoutez
RMC.
RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là comme tous les soirs en direct, bien sûr, l'after jusqu'à minuit, l'after sur RMC à la radio, l'after sur RMC Sport News à la télé, l'after l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec un casting Ligue des Champions ce soir, messieurs dames, évidemment Daniel Riolo est là, rentrée de Dortmund, frais, dispo, motivé. Salut Daniel.
Salut les amis, tout de ce que tu as dit sauf frais.
Lui aussi a joué à Dortmund avec, bon, pas que des grands souvenirs, mais enfin, bon, il était lui aussi, il y a quelques années.
Un braquage intégral.
Lionel Charbonnier avec nous ce soir. Gilbert. Salut Lionel.
Salut à tous.
Et attention, ils sont là, bien sûr, avec nous en studio.
Ils ont nos drôles de sourire, hein.
Ah bah attends, Simone Rovera.
Ah, regarde, il va falloir l'opérer tellement il a une sourire jusqu'aux oreilles, tu sais.
Bah, c'est une belle soirée.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Voilà. Je crois que c'est possible d'en mettre 3 en quart de finale, ce serait énorme pour toi, non?
Ah oui.
Bah, Atalanta, c'est une partie. La Juve est favorite.
Et pour Naples, ça, il faudrait
tout
se passer.
Attention, la Juve, je sais pas ce qu'il y a en ce moment.
Enfin, Naples, ils font la grève, c'est les joueurs de Barça font la grève.
Tout, hein. Non, faut pas non plus.
Attends. Daniel, t'enflamme pas.
Ouais, je le prends.
Hein. Attention, accueillez quand même le King, El Rey, la meilleure Liga du monde. Fred Hermel, s'il vous plaît.
Latikos. Moi, je suis déçu, t'as pas ta veste d'hier.
Ah non, c'est pour l'extérieur. Tu sais, t'as les maillots extérieurs et puis t'as les maillots.
Mais ton costard de l'extérieur.
C'est les trucs de l'extérieur.
Et Fred, au-delà de la veste et machin, il pourrait en placer que deux, ce serait rare, deux en quart.
Non, c'est déjà arrivé. Mais attends, moi déjà, je peux pas être triste, les deux Anglais ont perdu, donc moi déjà, je suis bien, quoi. Tu vois, je veux dire là-dessus, c'est fini. Toi, tu joues ton championnat. Moi, je joue mon championnat contre Gilles Laurence.
Bien sûr.
Pour l'instant, moi, j'ai une victoire et lui, il a deux défaites.
Les gars, au programme de l'after, évidemment, les deux matchs de Ligue des Champions de ce soir, la victoire de Leipzig à Tottenham 1-0, la victoire de l'Atalanta face à Valence 4-1, mais également le PSG, parce que après le match hier, pendant que nous étions en plein after au Stade de Dortmund, il s'est passé 1000 choses. On va récapituler tout ce qui s'est passé et évidemment parler de la situation aujourd'hui au PSG. Le 32-16 est ouvert, hein, toute la soirée, vous le savez, pour nous envoyer vos messages, ouais, peut-être. Le hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio sur nos applis gratuites. Il y avait un match de Première Ligue également ce soir. Hein. City a battu West Ham 2-0. Mais vous le savez, en Ligue des Champions, l'essentiel, c'est plus les 3 points. Et pourtant, ils sont là quand même.
L'important, c'est l'essentiel.
Hein. Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, de quoi veux-tu parler ce soir, tes 3 points de débat?
En fait, sur les deux matchs, je vais en grouper un. Les deux plus belles équipes, les deux équipes qui... je ne veux pas insulter Valence, parce que c'est également une équipe qui joue et qui est agréable à regarder et qui a des bons joueurs. Mais on va dire que les deux équipes qui pratiquent le plus beau football, de mon point de vue, ont gagné ce soir en proposant des choses qu'on voit trop peu, en tout cas dans notre petit univers à nous. Et comme ce sont deux équipes qui n'ont pas des moyens surdimensionnés, en tout cas surtout Atalanta, si quelques entraîneurs de chez nous ont pu jeter un coup d'œil sur le fait que devant le ballon, il y avait souvent 7 joueurs de l'Atalanta, si ça pouvait donner des idées, ce serait pas mal. Donc j'ai fait un point en 2 et je passe directement au 3, puisque tu l'as dit, on va en parler tout à l'heure. Je sais même pas, la piste aux étoiles, le cirque Bouglione, lequel vous préférez pour le PSG? Moi, perso, c'est le Bouglione, mon préféré.
Moi, j'ai mis PSG Comedy Club.
Moi, je préfère le cirque. Donc, le cirque au Bouglione.
Moi, le cirque, je trouve ça très positif. J'adore le cirque.
La piste aux étoiles.
La piste aux étoiles, c'était bien.
Oui, mais,
ça. Non, mais le cirque, c'est beau.
Marre, c'est pas censé ressembler au foot.
Il n'y a pas les Orfeils, non?
Ah, Orfeils en France, c'est en Italie. C'est les
ok.
En France, Bouglione, c'est une famille.
J'imagine. Non, le PSG Comedy Club, j'aime bien ça.
T'as quoi, parce qu'ils nous font marrer, quoi.
Bah, mais ça, quoi. L'autre cirque, là,
ça me fait marrer.
L'autre, que super connu.
Grus.
Non, c'est
Zavata.
Non, c'est un clown, Zavata, quel rapport?
C'est un cirque aussi. C'est un cirque aussi.
Mais c'est un élément à l'intérieur du cirque. Je parle de la structure.
Bon, oh, il est relou celui-là. Bon, on s'en fout. Allez, Lionel, t'es 3 points.
La piste aux étoiles, tu voulais dire.
Il y avait ça. Mais ça, c'était la
Lionel, t'es 3 points.
Mon premier, c'est la fureur de Mourinho contre ces Allemands de Leipzig. J'étais obligé. Mon deuxième, c'est l'Atalanta remplace pour moi l'Ajax l'année dernière avec sa fraîcheur.
Tu veux que c'est l'Ajax de Bergame?
Ouais, j'adore.
Ouais, c'est pas bête. C'est exactement ce que disait Simone tout à l'heure avant le match que l'Atalanta.
Oui, alors on est dans les 3 points. Alors s'il vous plaît, pendant les 3 points,
c'est le Saint-Moray de la Ligue des Champions.
Règle de base, on se la ferme. Et ton troisième point.
Et mon troisième point, c'est le pour moi la débâcle du PSG hier. Même si 2-1, attention, c'est quand même ça reste un bon résultat. C'est une erreur de gestion, je dirais. Je sais pas si je peux dire individu ou collective.
Individu collectif, très bien, un nouveau concept.
C'est-à-dire que tu veux gérer des individus, mais en fin de compte, tu perds tout un collectif.
Je précise, donc le PSG, on en parle tout à l'heure. Je précise Daniel. Que Paulo Breitner nous rejoindra dans quelques minutes également pour tout dire du match de Leipzig. Mais là, puisque nous avons Simone et Fred, on va démarrer sur donc l'Ajax de Bergame, mon petit Simone. Là,
c'est vrai, c'est vrai.
On peut le dire, comme le dit notre célèbre publicité, c'est Authentiqua Qualita.
Bah, je me demande.
Ça, avec le Pellicolo, comment vous dites les Français?
Pellicolo, Gianni della qualità, mais j'aime bien la version.
Authentiqua Qualità.
Dès que j'ai quitté la France,
il aime bien cette phrase. Il l'a sorti deux fois sur le chemin Dortmund comme ça. Il se faisait la piste.
Parce qu'il aime des choses belles.
Il aime des choses belles.
En fait, pour tout te dire, avec Jérôme Thomas, toute la soirée, on a fait un délire avec Simone parce qu'il était tout seul sur un canapé en regardant le match. Donc on s'est dit, Simone, c'est quoi ce canapé? C'est pas le train de sofa.
Donc il y a un booking photographique de moi sur le canapé.
Ouais. Allez sur Twitter, vous allez vous marrer.
D'accord.
On a mis des photos là sur Sport News.
Je me demande si depuis le début de la saison, j'ai parlé assez de l'Atalanta, peut-être pas. Parce que.
Non, mais surtout,
quand même un petit peu.
Simone, excuse-moi, mais pour être un peu sérieux, tu les as vus. tu nous les as même éliminés un petit peu avant l'heure en phase de poule, rappelle-toi. Et tu disais, en face de poule, ils vont pas y arriver et tout.
C'était un vrai miracle, leur cas.
Alors, c'était fou. Sur les trois premiers matchs, 0 point. La première, on rappelle que les premiers matchs en Ligue des Champions, ils vont prendre 4-0 à Zagreb. Bonjour, c'est la Ligue des Champions, 4 chiffres.
Et en championnat, ça à ce moment-là, ils
bisutage.
Non, les championnats, ils ont toujours été top. Plus montants dans une bonne position. La vérité, c'est que ils ont dû apprendre à jouer la Ligue des Champions parce que ils ont une intensité qu'aucune équipe est capable de mettre en Serie A. Ils sont capables de vraiment mettre en danger des grandes équipes comme la Juve, l'Inter, la Lazio, mais vraiment tous en difficulté. En Ligue des Champions, quand même, ce niveau de jeu s'élève même en phase des poules en rapport à la stérilité qu'il y a en Serie A. L'Atalanta a appris de ses erreurs,
vite,
est devenu meilleur. Et pour moi, les points qu'ils ont pris face à Manchester City, même si pour City c'était pas un match capital, ça reste vraiment les tournants de la saison. Mais sans aller sur l'histoire, on va sur les présents. Ces soirs, l'Atalanta a eu plein d'occasions, pouvait marquer plus, pouvait en casser plus, parce que quand même, ils font des erreurs.
Mais ce sont des matchs qui sont toujours très ouverts.
Voilà.
Ils font des erreurs dans la possession.
Il y a balle de 4-2, puis balle de 5-1.
Ouais, voilà.
Et les dernières 20 minutes, Valence.
Sincèrement, moi, je partage ton enthousiasme. Je l'ai vu avec toi. Mais je pense que derrière, c'est quand même beaucoup ça trop fragile. Parce que ce soir, si t'as un Maxi Gomez, mais qui est à 10% du niveau que doit être un joueur de Liga, il y a deux occasions.
S'ils vont avec ses intentions à Mestalla, même si Valence est capable de
marquer. Je pense que pour Valence, ça va être très compliqué parce que l'Atalanta risque de marquer à Valence.
Voilà.
Donc dans ce cas-là, c'est ça.
On sait que Valence est capable de mettre le feu.
Voilà.
Est-ce qu'ils peuvent récupérer des joueurs parmi tous leurs
absents? Le Rodrigo Moreno, il a des problèmes épanchement de synovie, le genau enflammé, etc.
Ça change la vie.
Ouais, peut-être que voilà.
Ils vont avec les mêmes intentions.
Ils risquent de marquer.
Ils vont marquer. Il n'est pas fait. Mais 4-1 est un résultat.
Ce but de Chérichev, quand même. Ce but de Chérichev à 4-0, c'était fini. Ce but de Chérichev, ça donne quelque chose. Et moi, ce que j'ai vu en toute fin de match, face à un Valence qui a été très mauvais. C'est-à-dire que juste avant, aussi bien à la télé qu'à la radio, on disait Valence, on ne sait jamais sur quelle équipe tu vas tomber. l'équipe qui prend 3-0 à Rétafé ou l'équipe qui bat le Barça. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très inconstante.
Bien sûr.
Pendant 80 minutes, on a eu l'équipe inconstante et l'équipe, mais qui a été lamentable.
Non, mais maintenant, elle a été vraiment
elle a
gênée.
Été bousculée.
Elle a été gênée.
Ceci dit, c'est pas la même équipe qui rentre à Rétafé. Là, ils ont pris le bouillon parce que l'Atalanta était vraiment très
fort. Oui, alors que contre Rétafé, dans l'attitude. Mais quand tu vois, par exemple, le match que fait Guedes, mais c'est en dessous de tout. Enfin, je veux dire, il y a eu un problème aussi de l'entraîneur, que j'aime bien, en l'occurrence, mais, enfin, à la mi-temps, quand tu vois le match pourri que fait Guedes, qui tient pas le coup physiquement.
Non, mais.
Parce que le truc, tu le changes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas eu de réaction depuis le banc.
Parce les mérites de l'Atalanta, c'est aussi de ne pas faire jouer avec les pressing.
Oui, mais
pour moi, c'est pas extraordinaire.
Ce qui m'a gêné du côté Valence, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse à la super première période de l'Atalanta. Tu vois ce que je veux dire? Depuis le banc. Parce que, il y a absolument rien à dire. Simplement, à part la défense de l'Atalanta qui est. Mais parce que son jeu risquait automatiquement.
Et voilà, les buts qui arrivent sur une passe de Palomino.
C'est magnifique.
Tellement risqué, la passe de Palomino, c'est une erreur. Les buts qui marquent Valence, c'est un cadeau de l'Atalanta. Comme les poteaux qui prennent en première mi-temps Valence, encore là.
Comme l'arrêt de Golini à bout portant, c'est une mauvaise relance, il se reprend parce qu'il met
donc,
une mauvaise dégagement.
L'Atalanta a des défauts, des jeunesses, des expériences.
Plus des erreurs individuelles. Parce que les buts qu'ils ont failli marquer, ce sont des erreurs de l'Atalanta. C'est
bien
pas
sûr.
Des bons mouvements de Valence.
Alors après, la pelouse, franchement, c'est pas. Je suis désolé, mais c'est pas une pelouse de huitième de finale de Ligue des Champions.
Bien sûr.
Je suis désolé. Enfin,
la semaine dernière,
la pelouse de Milan, tu veux dire. Ah oui, non, mais c'est terrible.
Oui,
enfin, c'est
pas la faute de l'Atalanta.
Non, mais à un moment aussi, vu l'argent qui est en jeu, vu ce que ça coûte une Ligue des Champions, il faut exiger un minimum de qualité de la pelouse. Parce que là, ça a quand même desservi un peu le jeu. Il fait un très mauvais match.
Malheureusement.
Parce qu'il peut pas.
Tu peux inverser le truc en disant, ils gagnent 4-1 alors que c'est même pas leur stade. Ils jouent à domicile, pas chez eux.
C'est bien joli, tout le côté romantique. Bon, Atalanta, déjà, leur stade n'est pas homologué. Ils vont dans un stade où la pelouse, elle est indigne, mais même de la.
Même on peut expliquer. La semaine dernière, ils ont joué deux matchs. Mercredi et jeudi, des Coupes d'Italie, un après l'autre. L'Inter et Milan à domicile.
Ça, c'est pas le problème.
Donc,
tu dois offrir un minimum de qualité de
pelouse
à ce niveau de football.
Reparlons du jeu, parce que c'est ça qui est intéressant.
Moi, je trouve que ça gâche aussi le spectacle.
Lionel, tout à l'heure, tu comparais un peu, on disait l'Ajax de Bergame. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais quand on compare la production des deux matchs d'hier. Et les deux matchs de ce soir, franchement, heureusement qu'il y a ce soir pour nous rattraper.
Dans le rythme,
Entre Leipzig et l'Atalanta, c'est génial quand même.
Bien sûr, mais là, tu as les intentions.
C'est pour ça que je soulignais la performance de ces deux équipes et le plaisir que j'ai eu à les regarder.
Dans les intentions, dans le rythme, dans les
jouer comme ça et de faire mal à Tottenham.
Pour gagner les duels, ils sont vraiment. Il y a un investissement des attaquants dans le jeu défensif, dans les transitions. Ça va à 2000. Voilà, là, on est vraiment dans la Coupe d'Europe. On est vraiment dans la Champions League, quelles que soient les équipes avec leurs budgets respectifs. Franchement, là, c'est pas une question de budget. C'est une question d'envie, c'est une question.
Ça, Lionel, je suis content de te l'entendre dire. Parfois, il est arrivé que sur ce point-là, nous ayons été en désaccord sur la première phase et encore pas tant que ça. Mais une équipe comme l'Atalanta, sang.
Il y a environ 5 millions de budget.
Que toutes nos équipes les regardent, et notamment l'OL.
Et là, je
à plus de 200 millions, dont joue cette équipe.
Attention, Leipzig, gros budget par ailleurs.
Leipzig, je te parle de l'Atalanta.
Mais ils sont vraiment à 300 millions, Leipzig? C'est énorme.
Polo nous confirmera ça tout à l'heure.
C'est un club
les
famille.
Les plus gros achats de l'histoire de l'Atalanta, c'est Zapata qui a été payé 25 millions. Sinon, c'est des joueurs à aller trouver.
Le milieu
en Belgique, Breuler.
Combien même pas 2 millions.
Le plus gros joueur de l'Atalanta, c'est Franck Zouzé.
De Groningen, si je ne me trompe pas, il a été payé 2-3 millions.
Aujourd'hui, Simone, quand l'Atalanta joue, c'est toute l'Italie qui est derrière, c'est tout un peuple, plus que quand ce sont les autres équipes.
Oui, plus ou moins.
Mais là, c'est parce que c'est quand même clubs, une petite.
Enfin, une petite équipe. De la sympathie, mais généralement, les supporters des autres clubs se foutent de ce que font les autres clubs.
L'Atalanta a une grosse rivalité
même
avec l'Inter,
Il n'y a pas d'enthousiasme général en Italie, non.
Oui et non, c'est-à-dire.
Pour les clubs, ça ne marche pas en Italie, ça.
Chacun
soutient son club, les autres.
Et puis après
bon, il y a peut-être un peu des sympathies générales, mais.
Voilà, oui, ça, oui, parce que c'est le petit club.
L'Atalanta, c'est pas très aimé quand même, à niveau des supporters. Et c'est des supporters.
Pas, déjà, tout la moitié sud de l'Italie ne va pas soutenir l'Atalanta.
Et Gasperini.
Parce que Bergame est une ville.
Et je veux dire, Gasperini, c'est pas un entraîneur qui est très aimé par les autres supporters. C'est un entraîneur qui se fait souvent insulter dans les stades parce que c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup, qui a un mauvais caractère. Après, c'est un excellent entraîneur. Et une chose, je vais vous dire sur Gasperini, 75e minute. il sort Caldara, défenseur central,
pour faire rentrer l'attaquant.
Il change aussi son tactique. Mais c'est pas qu'il va
pas
étonner.
Attends, il sort un défenseur pour un attaquant, ouais. Alors qu'il mène 4-1.
À la 75e minute. C'est quelque chose que montre vraiment quelle est son idée. Et devant Zapata, il a fait son travail à la fin avec garder les ballons, donner des coups, bien sûr.
Ouais, mais c'est intelligent ce changement, c'est un peu risqué, mais tu peux marquer le cinquième déjà.
C'est
mais surtout,
même...
comme dit Daniel, tu remontes l'équipe.
C'est-à-dire
c'est
à ce moment-là,
l'attaquant
recule beaucoup.
Exactement. Donc là, tu tires un peu. Tu
donnes
un
message mental à tes joueurs et tout le monde. Et ce soir, c'est la victoire de Gasperini, vraiment. Si on pense lui, il va prendre une Atalanta qui jouait. Pratiquement les maintiennent il y a 4-5 ans. C'était une équipe vraiment du basse, partie basse du tableau. Qu'est-ce qu'il a fait? Où les amener? C'est pas encore en quart de finale. Mais c'est un projet. Ouais. Il y a un travail. Il y a une idée des jeux. À laquelle il apporte ses connaissances du gros budget qu'Atalanta a aujourd'hui avec Gasperini. Parce que quand il y a Gasperini, le budget, c'est 30-40 millions. Aujourd'hui, avec toutes les ventes qu'il a fait à joueurs à 30-40 millions qui sont partis, l'Atalanta peut se permettre d'avoir un plus gros budget. Donc, s'il y a un homme derrière tout ça, derrière cette magie, cette soirée incroyable, c'est Gasperini. Et j'espère qu'il va continuer à Bergame. Parce que je ne pense pas que ces modèles, on peut les retrouver dans une autre équipe comme la Roma, la Lazio.
Parlons un peu des joueurs maintenant, là, parce que il y en a évidemment. Là, bon, toi, tu suis l'Atalanta toute l'année. On n'a pas tous regardé tous les matchs de poule de l'Atalanta, on va pas se mentir. Là, on a découvert certains joueurs.
Gomez, par exemple.
Gomez, pour moi, c'est
connu depuis longtemps.
Il a eu une interview aujourd'hui dans Le País. Il n'avait jamais eu d'interview dans Le País. Le grand journal espagnol. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il est mis en avant. Il fait un match.
Non, mais Atebauer, là, par exemple.
Atebauer, c'est l'année dernière, c'est les défenseurs qui marquent plus de l'Atalanta, il marque 6 buts. Cette année, il était un peu mis à des côtés, comme avec l'explosion de Gosens. Les latéraux défensifs, qui sont jamais vraiment défensifs, sont souvent les meilleurs joueurs de l'équipe de Gasperini. Cette année, Gosens, latéral gauche, il a 7 buts en championnat et en Ligue des Champions. Atebauer marque ce soir ses premiers buts. C'est un joueur qui fait énormément des efforts. Mais c'est difficile pour moi de les sortir du contexte Atalanta. Si on va voir Spinazzola, qu'est-ce qu'il a fait à la Juve et à la Roma, depuis son départ de l'Atalanta, c'est pas la même chose. Conte, il est parti au Milan, c'est pas la même chose. C'est vraiment, les latéraux, c'est parfait parce qu'ils demandent des efforts. Mais les mouvements qu'ils font aussi les autres joueurs, et surtout Gomez sur les côtés gauche,
sont en mouvement.
Sont favorables au fait que les latéraux rentrent dans la surface.
Bien sûr.
Les premiers buts, c'est Gomez qui met les ballons sur le deuxième poteau pour Atebauer, mais il y avait Gosens quelques mètres à côté de Gomez qui était prêt à rentrer aussi dans la surface. Et après, c'est difficile
t'as
de sortir un joueur pour moi ce soir.
T'as pas un joueur que tu peux ressortir. T'as pas un joueur qui marche lorsque l'Atalanta a la balle. T'as tout le monde qui est en mouvement. Dans tous les sens. Il y a des courses croisées. Et le ballon est toujours en mouvement. Jamais arrêté.
C'est incroyable ça.
Et ça joue tout le temps première intention. Devant.
Dis-moi, Pasalic. Il était à Monaco, lui.
Oui. Il était à Monaco, il était à Milan.
Il a pas fait grand
chose. Monaco, il vient faire tout le champ.
Il est un joueur de Chelsea. Il a jamais été si important, même s'il n'est pas un titulaire indiscutable. C'est un joueur qui souvent rentre en deuxième mi-temps. Parfois, il est titulaire. Mais à mon avis, il n'a jamais eu un entraîneur qui a cru en lui autant que Gasperini. Et quand tu es prêté une année ici, une année par là, et tu ne sais pas en été où tu vas jouer,
tu as besoin de confiance.
Avoir quelqu'un qui te fait confiance, l'Atalanta devrait lever l'option d'achat qui s'y mettront pas ces 15 millions. Mais aujourd'hui, ils peuvent les faire aussi avec l'argent de la Ligue des Champions. Mais Gasperini, c'est quelqu'un qui fait augmenter pas les valeurs seulement économiques des joueurs, mais aussi à un niveau moral qui fait croire beaucoup plus en eux. Parce que les résultats, ils arrivent.
Dis-moi, le remontada, c'est possible, là?
S'il y a un stade qui peut le faire, c'est Valence. C'est un stade mythique pour ça, ils l'ont déjà fait.
Enfin, Barcelone,
mais
Staya...
Ça marche ailleurs. C'est un stade qui est connu pour ça. C'est-à-dire que c'est le pire stade d'Espagne quand le public est contre ses joueurs parce que en général ils ont peur. Mais là on sent qu'ils vont faire monter la sauce et que il suffit de quelques bons résultats.
Il y a eu des occasions quand même ce soir.
Ouais, c'est pour ça. Tu vois, c'est pour ça. Si y a de bons matchs en Liga d'ici au match retour à Valence, il y a des retours de joueurs importants comme Rodrigo Moreno qui est quand même le buteur de cette équipe. Il y a possibilité. Ça peut être après. Je vois la jeunesse de l'équipe de Bergame. Dans, je parle de la jeunesse, pas simplement de l'âge, mais tu vois dans la façon de jouer, l'enthousiasme, etc. Est-ce que s'ils se prennent un but dans les 5 premières minutes à Valence, ils vont pouvoir tenir le coup? Tu vois, c'est pas comment ils pourraient gérer un premier but rapide de Valence.
Ils sont frais quand même. Il y a beaucoup de fraîcheur dans cette équipe. Ouais. C'est pour ça qu'ils me font penser à l'Ajax. Parce
oui,
que
bien sûr.
À l'Ajax, non, à chaque fois, on disait ah ouais, mais attends, le retour, ça va être compliqué là-bas. Et en fin de compte, ils en mettaient autant. Et ils ont même à l'extérieur.
Ils ont gagné au Real Madrid.
Exactement.
Hein, ils ont
eu le Real Madrid. C'est pour ça que je vais comparer ce soir. Attention.
Donc, il y aurait l'ambiance de remontada. Après, c'est quand même un résultat magnifique. 4-1. Enfin, je veux dire, c'est.
Pour l'Atalanta.
Pour l'Atalanta. Ouais, enfin, je veux dire, c'est un résultat magnifique. Donc Valence, mais j'insiste sur ce que je disais depuis quelques jours. C'est vraiment. C'est une équipe qui est tellement surprenante du bon côté, du mauvais côté. Donc ce soir, on a eu le mauvais côté de Valence. Est-ce que dans 3 semaines, on aura le bon côté? Ça reste une inconnue. Mais quand même.
Ils ont quand même mis 2 buts assez dingues. Hein. Les frappes.
Ah oui, il y a ça aussi. Il y
avait ça qui a
joué. Voilà.
Et Ilicic, c'est un pour gaucher. C'est l'homme droit, on peut dire qu'il utilise son pied droit que pour marcher,
bien sûr.
Après, Domenech,
c'est pas comme ça, mais c'est quelqu'un qui utilise très peu
son pied droit. Je suis pas fan.
Ouais, t'as jamais été fan de Domenech, toi. On te connaît.
C'est un bon mec.
Mais bon, on peut pas dire qu'il
joue dans les buts.
On peut pas dire que sur les deux frappes, là, il est grand chose à faire, le pauvre.
Il m'a pas plu.
Au-delà des deux frappes, parfois, il y avait des
attitudes. Il a fait des interventions au pied.
Mais c'est l'ensemble.
Il n'inspire pas la confiance à sa défense.
C'est l'ensemble de l'équipe qui n'était pas en confiance, donc voilà. Mais après, sincèrement, si vous regardez le 11 possible de Valence, ou même celui de ce soir, il est pas ridicule. Enfin, tu vois les joueurs de qualité qu'il y a.
Non.
Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, donc Valence, oui, a une petite possibilité de remontada.
Après, comment est l'Atalanta quand ils sont dans des périodes de domination comme ça? Est-ce qu'ils sont capables de jouer un catenaccio, de faire le dos rond et de jouer en...
Ils sont pas capables.
C'est ça la chance
c'est
de
Valence. C'est la plus grosse raclée qu'ils ont prise cette année. Ça leur arrive de prendre du lourd.
Et prendre du lourd.
Le 3-0, ils ont pris, il me semble, non?
J'ai l'impression que. Si lourd.
Ils ont jamais pris le bouillon.
Bah non, ils ont pris 4-0 face à Zagreb en premier match.
Ouais. Et bon, ça suffit pour
City,
c'est bon.
Face à City, ils ont pris 3-1, 4-1.
Je sais plus.
Ils ont pris cher aussi face à City. Mais aussi parce qu'ils continuent à jouer. C'est la première fois où on verra l'Atalanta dans l'obligation, on peut dire, de gérer aussi le résultat.
Dans la gestion.
Gasperini vient de dire que
ils vont
pas changer.
Mais c'est pour ça que le match retour, malgré le résultat, est quand même super intéressant.
Oui, bien sûr.
Quelques réactions sur les réseaux sociaux. Yunkai qui nous dit l'Atalanta doit être l'exemple de tous les clubs de Ligue 1. Nous à Lyon avec Garcia, qu'est-ce qu'il fait? Il mène, il sort un attaquant pour bétonner derrière et ça marche pas. Bah voilà, faut faire comme l'Atalanta.
L'Atalanta, ça doit être l'exemple, comme l'Ajax devait être l'exemple l'année dernière.
Leipzig peut en être un autre. Hein, on va en parler tout à l'heure.
Leipzig, encore une fois, là, c'est un peu différent parce que c'est une énorme structure. Ouais.
D'ailleurs, à propos du budget, Daniel, Alex nous annonce 35 millions de budget pour l'Atalanta. Simonet.
Non, c'était il y a quelques années. Là, ça a augmenté.
Là, c'est plus. Parce que 35 millions, c'est même pas des. C'est fin de Ligue 1, quoi.
Ils ont gagné de l'argent avec les bonnes saisons. La Ligue des Champions, ils sont un peu mieux.
Il y a quelques années, c'était ça. Au début de l'époque Gasperini, c'était sur les 35-40 millions. Mmh. Là, ça a augmenté avec l'Europa League, le pré-Ligue des Champions. Cette année, si je ne me trompe pas, c'est sur les 100 millions.
Mmh. Autour de 100 millions, ouais. C'est déjà effectivement pas mal.
Mais bon, si cette équipe arrive à donner, pour une considération socio-culturelle, si cette équipe arrive à donner à la ville de Bergame un côté sympathique...
Pourquoi c'est moche, Bergame ?
C'est pas moche. C'est pas la ville qui est moche.
La ville, elle est jolie. La Bergame est un peu haute.
Non, mais
c'est belle.
Non, mais Daniel, moi, je ne connais pas. Tu as fait des insinuations. J'aimerais bien que tu expliques pourquoi. C'est quoi? C'est que politiquement.
Tu m'as dit que tu voulais aller en vacances là-bas.
Non, mais Bergame. C'est le berceau de la Ligue lombarde.
C'est considéré un peu des montagnes.
Le suprémacisme.
Le pourcentage de mecs d'extrême droite dans cette ville. On va être assez élevé.
Je dirais même pas extrême droite.
De Bergame, c'est un peu difficile qu'il m'adresse la parole.
C'est-à-dire que toi, toi Bergame, t'es un mec, t'es un mec d'extrême gauche. T'imagines?
Non, ça sera pas du tout ça.
T'es un mec
du sud. Ça sera pas du tout ça. Je sais même pas si je suis au-delà du cutéreux.
Oui.
Je sais même il pas si j'ai le droit de lui parler.
Oui, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui,
il est du sud de l'île de France.
Je connais déjà.
Mais moi aussi, j'en connais. J'ai des amis.
C'est une ville dans le coin là.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui
sont. Non, et comme j'ai dit, c'est pas très aimé entre les autres supporters italiens. Ça, c'est
aussi.
En tout cas, voilà, l'Ajax de Bergame nous a régalé.
Le foot rend sympa.
Merci, merci les gars. On va dans quelques instants faire un petit coaching. Et vous allez être avantageusement remplacé ou pas par Paulo Breitner et Julien Laurens pour parler de.
Je trouve que ça baisse un petit peu, mais Julien Laurens, il a quoi que c'est deux matchs de défaite, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Il s'est calmé, hein.
Ah, il veut se faire Julien Laurens.
Mais moi, c'est mon objectif. Ce soir, j'avais un œil sur Valence, mais j'avais un œil sur Tottenham. Hein.
Merci Fred. Allez, merci Simone Autentica Qualita. Et dans quelques instants, on parle de Leipzig, puis du Paris Saint-Germain d'ici minuit, bien sûr, dans l'After. À tout de suite.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Lionel Charbonnier également, c'est l'after jusqu'à minuit avant les infos PSG d'hier soir et de la nuit et de la matinée et de l'après-midi. L'autre match de Ligue des Champions du soir, la victoire du RB Leipzig à Tottenham. Julien Laurens nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Paulo Breitner arrive dans quelques instants. Paulo, il y a du boulot entre Dortmund, Leipzig, tout ça. Là, c'est la semaine spéciale Paulo. Est-ce que tu es surpris par la performance de Tottenham ce soir, Julien?
Non, pas surpris, c'est ce qu'on avait évoqué déjà lundi dans l'émission. C'est-à-dire qu'ils ont du mal quand même en ce moment avec Mourinho, surtout avec l'absence de Son, qui est lui aussi blessé après celle d'Harry Kane pour 6 semaines. C'est très compliqué pour eux. Offensivement, c'est compliqué. Et défensivement, comme on l'avait dit aussi, ils continuent à prendre des buts, ils continuent à concéder des occasions. Et ce soir, ça aurait facilement pu se terminer sur une défaite 3-1, par exemple. 1-0, je trouve qu'il limite la casse quand même et il garde un espoir avant le match retour, même si on a le match.
La première mi-temps, Tottenham était complètement à la rue, c'est incroyable.
C'est compliqué, ouais. Et moi, je trouve que Mourinho a du mal à trouver des solutions. Par exemple, je m'attendais à un changement qui fasse quelque chose à la mi-temps, et même si la seconde période a été un petit peu meilleure, t'as rien vu finalement de la part de Mourinho pour essayer d'inverser la tendance. Je trouve que Leipzig a peut-être moins dominé la seconde période, mais a encore été assez souverain et a jamais vraiment été dérangé par cette équipe de Tottenham qui a du mal.
Julien, c'est surtout Leipzig qui a baissé de pied parce qu'ils ont tenu un rythme important pendant 80 minutes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à la 80e, 75e, qu'on a commencé à voir Tottenham. Sinon, avant, il n'y avait rien du tout, quoi.
Tout à fait, c'est vrai, c'est exactement ça. Et je pense qu'avec un milieu de terrain pareil, avec une composition d'équipe pareille au coup d'envoi, Mourinho joue pour le match nul, comme il avait fait contre Manchester City, comme il avait fait contre Liverpool. À chaque fois qu'il y a un gros, de toute façon, il a cette attitude très négative, ce qu'il a toujours fait, hein, mais aujourd'hui ça marche beaucoup moins, parce que en face t'as tellement d'intensité, t'as tellement de talent, que toi si tu te reposes un petit peu sur ces acquis-là qui sont même pas encore bien huilés, c'est vrai, c'est très compliqué.
Tu penses que dès le départ son plan de jeu c'était de jouer en bloc bas et puis d'essayer de contrer, même avec l'absence de Son?
Plan de jeu de Mourinho, complètement. Lionel.
Ouais. Ah ouais. Complètement. Mais moi, je trouve que.
Excuse-moi.
Si tu veux, c'est fini ce temps-là.
Ouais, excuse-moi. Ouais. Parce qu'au départ, je me posais vraiment la question. J'ai dit, mais c'est son plan de jeu. Et ensuite, quand j'ai vu les joueurs de Leipzig, l'intensité, je me suis dit, mais non, c'est qu'en fin de compte, il ne peut pas faire autrement, quoi.
Non, je pense que c'était vraiment les consignes. C'était les consignes contre Liverpool, c'était les consignes contre Manchester City.
Chaque fois qu'ils jouent un gros, c'est ça, quoi.
Exactement. Et même contre Chelsea aussi, quand Chelsea est venu s'imposer au Tottenham Stadium 2-0 en championnat, c'était pareil. En première mi-temps, ils ne dépassaient pas la ligne médiane. Ils étaient acculés, ils étaient dans leur moitié de terrain. Où le mot d'ordre et les consignes c'était ne pas laisser d'espace, ne pas prendre trop de risques, ne pas trop s'exposer, et on voit en compte ce qu'on peut faire. Et je pense qu'aujourd'hui dans des matchs pareils, c'est plus possible. Tu ne peux pas jouer sans prendre de risques, sans avoir de l'intensité, sans aller vers l'avant.
Sinon, à un moment, tu te feras toujours avoir. C'est pour ça que Mourinho, ça fait des années que ça dure. Il est dépassé. Il est fini. Il pratique plus. Il fait plus pratiquer le football qui peut réussir.
Messieurs, on va écouter Hugo Lloris et ensuite on parle du RB Leipzig. Hugo Lloris, il y a quelques instants, juste après le match, bien sûr, le gardien de Tottenham.
Oui, exactement. Bon, après, il faut rester positif. Il y a encore un deuxième match à jouer.
s'inspirer de ce qu'on a pu faire en termes d'exploits l'année dernière, mais on connaît le contexte, c'est une saison très difficile. Il nous manque beaucoup de joueurs importants et on doit trouver les solutions en équipe, être prêt à se battre à chaque match et créer l'exploit. Tout simplement, aujourd'hui ça a été difficile, enfin, c'est une très très bonne équipe, bien organisée. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes en première mi-temps, mais les 20 dernières minutes me laissent quand même espérer parce qu'on a vu un autre visage, une équipe beaucoup plus tranchante, une équipe capable de prendre la possession et prendre le jeu à son compte, et c'est comme ça qu'on aurait espéré démarrer le match. Maintenant, pour différentes raisons, on a beaucoup subi et voilà, on n'a pas concédé le deuxième but. Là, effectivement, les chances seraient finies, mais voilà, ça sera difficile, mais il faut être prêt à créer l'exploit.
Voilà, Hugo Lloris. Alors que Polo Breitner, l'homme de la semaine, nous rejoint. Deux matchs de victoire.
L'homme qui rêve d'un triplé maintenant.
Pour Polo.
Le triplé est possible.
Bonsoir, messieurs.
Polo, le triplé.
Salut, Polo.
Oui, et puis il y a l'Europa League, il y a tout ça, il y a plein de choses encore. Écoute,
l'Europa League.
Bah, ça se joue, il y a encore des équipes allemandes demain qui jouent. On verra. Mm-hmm. Si, en fait, moi je suis ébahi par la performance de Leipzig ce soir, qui a quand même relativement peu d'expérience dans cette compétition. Je considérais au départ que Tottenham, alors évidemment le match retour, on verra ce qui va se passer, que Tottenham était le favori, voire le clair favori sur cette rencontre, parce que c'était un vrai défi d'aller défier le finaliste de la saison passée. N'oublions jamais que le RB Leipzig n'a aucune référence européenne, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais battu de gros clubs européens capables de gagner. Moi, ce qui m'a plu ce soir,
ils ont l'insolence du débutant.
On peut dire ça comme ça, mais moi, ce qui m'a plu ce soir, c'est que la façon dont ils jouent en Bundesliga, ils jouent la même façon en Ligue des Champions. C'est-à-dire, alors évidemment, c'est un peu comme Dortmund hier, ils se projettent moins, ils prennent moins de risques sur des. Il y a des moments, mais on n'hésite pas à faire jouer un Sabitzer en numéro 6, alors que c'est quand même pas le plus grand des défenseurs ou des personnes qui met le pied. On a un Mukiele qui fait sûrement son meilleur match de la saison sous le maillot de Leipzig, alors qu'il n'est pas toujours titulaire. Et puis moi, Nkunku, voilà, enfin le gars fait partie de ces Français que j'adore en Bundesliga parce qu'ils ont rien dit depuis le départ. Ils n'étaient pas forcément titulaires, on lui donnait 20 minutes de jeu, etc. Et il a mis Forsberg sur le banc, il est titulaire ce soir contre Tottenham à l'extérieur. Donc chapeau le petit, parce qu'il n'est pas tellement grand. Et le voilà, enfin moi je suis vraiment impressionné par cette façon, presque, tu vois, par rapport au match de groupe, par rapport au groupe avec Lyon, ouais, Benfica et le Zénith, c'est presque une équipe qui était qui n'avait pas peur, qui faisait pas d'erreur, alors qu'ils en ont fait beaucoup pendant la phase de groupe, et presque une équipe mature. Et j'ai pas envie de dire que cette équipe pourrait être la surprise de cette saison, mais je crois qu'il y a une belle épopée qui peut s'écrire. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui.
On parlait tout à l'heure de l'Ajax de Bergame, là c'est pas l'Ajax de Leipzig.
Moi, j'ai plus l'impression que ça marque quand même beaucoup le football allemand dans cette façon de se projeter, dans cette façon de jouer avec les latéraux.
Les équipes allemandes nous régalent.
Bah oui.
Oui, mais tu vois,
franchement, c'est agréable.
Oui, mais quand tu acceptes le déséquilibre comme ça ou que des joueurs se projettent, faut aussi, quand ça marche pas, accepter le fait de t'en prendre 3, de t'en prendre 4, quand les équipes sont plus intelligentes que
et
toi.
Qui dit que tu l'acceptes
pas. En tout cas, quand tu regardes ça de façon neutre comme nous, tu te régales.
Oui,
même s'ils en prennent 3, 4, c'est génial.
L'année dernière, en 8e de finale Ligue des Champions, les clubs allemands se sont fait éclater par les clubs anglais. Là, ça passe. Là, il y a le match Dortmund PSG. Il y a des choses comme ça qui. Il faut accepter en fait que ce football allemand soit sûrement excellent pour le spectacle. Hein, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a que les stades allemands.
Mais qu'il y ait moins de coupes à la fin, quoi, tu veux dire.
Mais qu'il y ait moins de coupes à la fin et qu'il y ait le droit à l'erreur, j'ai envie de dire.
Alors, tout à l'heure, on parlait du budget de Bergame. On disait en passant que Leipzig, c'est quand même une grosse machine. Et il y a de la thune.
Oui, alors tout est relatif. On ne peut pas comparer le budget de Leipzig avec celui du Real, du Bayern ou même de Dortmund. Hein. Moi, le vrai dernier chiffre qu'on a, c'est 217 millions en 2017. Donc, avec l'évolution des droits de télé, avec évidemment les participations en Ligue des Champions, on va monter 300, à 300. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais 300, c'est Schalke, c'est un peu moins, c'est un peu plus que Leverkusen, c'est pas non plus des choses extraordinaires, c'est plus le projet, moi, qui est intéressant. Donc, oui, c'est une belle équipe. Quand on commence, c'est les chiffres 300. Peut-être que pour le foot français, on devrait commencer à réfléchir, parce que on parle toujours de.
Non, mais le 300 en Allemagne, c'est 400 chez nous.
Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, ça?
Par rapport aux charges, par rapport à tout ça, les charges, non, sont pas les mêmes.
Mais
on ne peut pas comparer.
De charges. Mais c'est une question d'oseille. Mais parce que la masse salariale de Stuttgart, par exemple, est supérieure
Il faut comparer. Enfin, moi, je compare plutôt que c'est quel budget par rapport en Allemagne.
Mais non, le problème.
Quel est le budget de Leipzig?
C'est une affaire de charges.
Pourquoi? Parce que là.
L'imposition, c'est pas la même, rien n'est à voir.
Mais là, je te parle de l'oseille qui rentre, je te parle pas de ce qu'il y a en dessous. Le chiffre, la masse salariale de Stuttgart est supérieure à l'ensemble du chiffre d'affaires de la SSE. Tu peux mettre ta
Stuttgart qui est en D2.
Oui, qui est en D2 aujourd'hui. Tu peux mettre ton chiffre d'affaires, ta taxe à 100% à zéro, ça ne change strictement rien. Ça, c'est des logiques libérales, c'est des logiques de toujours dire toujours plus, toujours moins de charges pour essayer d'être plus compétitif. Ça n'a jamais fonctionné.
Ils ont quel budget du championnat?
Qui?
Bah, on est en train de parler de Leipzig, non?
Oui, bah Leipzig, ils ont alors 1-2, ils se battent pour la troisième place.
Ah ouais. Et nous, le troisième budget, c'est combien?
Monaco. Budget, Monaco, Marseille.
On va dire que Monaco, c'est un
Monaco,
peu
ouais. Monaco, t'as PSG, Lyon.
PSG, Lyon, Lyon, Monaco. 250. Monaco, on sait pas vraiment avec eux, c'est toujours un peu compliqué. Et après, on arrive tout de suite à Marseille avec 110-120. Leipzig, c'est au-dessus. Le Leipzig a plus d'argent et donc voilà. Mais c'est un club qui a plus d'argent.
Voilà.
Non, mais moi ce que je retiens de là-dessus, c'est non, pas le pognon, c'est le projet de jeu, s'il y a le style qui met en place, c'est ça qui compte.
Il n'y a pas de jeu. Tottenham, ils ont 500 millions, ça joue pas, Mourinho. Lionel, voyons.
Oui, non, mais
Tottenham,
après,
ils ont
pas des intentions. Des intentions, mais c'est pas un petit
club. Et même s'il y avait eu
c'est pas un petit club. C'est pas l'Atalanta.
On est d'accord.
Ça
dit que c'est un petit club. Dans le jeu, là, c'est le jeu.
Non, non. Je parle juste de budget.
C'est un petit club, mais.
Bah, j'avais l'impression d'entendre un peu ça.
C'est forcément dans la masse salariale. C'est la masse salariale qui est déterminante. À Leipzig, elle va pas forcément, parce que les joueurs qui sont à Leipzig, à part 2-3 vedettes à qui peut-être ils donnent, et je pense Timo Werner doit faire partie des mecs qui touchent beaucoup.
Parce que c'est la politique de Red Bull.
Je pense pas qu'une Kunku touche un salaire astronomique, et d'autres joueurs de cette équipe, idem.
La politique pour aller chercher les jeunes, quand même, c'est pas qu'une question d'argent. C'est déjà, il faut le faire et le mettre en place, hein. Et ça coûte pas tant.
Quand l'Atalanta va chercher le Suisse à 2 millions, est-ce qu'on le connaît, nous? Est-ce que les clubs français sont sur les joueurs suisses, les joueurs autrichiens, toutes ces filières-là? On n'a pas, nous. On développe pas ça. On fait pas ça, nous. Mmh. Nous, quand tu vas à l'étranger, tu vas chercher un mec qui est parti de France, qui a été en situation d'échec et que tu fais revenir.
C'est vrai.
Genre, comme on fait Saint-Etienne, comme font pas mal de clubs, on va chercher le mec qui était parti, ça a pas marché pour lui, dans un vulgaire club anglais ou je sais pas où, on le fait revenir et puis voilà. Mais on n'a pas, on travaille pas. On travaille pas sur la matière. Parce que aussi, t'es censé en former plein des joueurs.
Alors, il y a combien de joueurs de la formation, issus de la formation à Leipzig?
Alors,
dans l'effectif aujourd'hui. Mais
quand on dit ça, pour le cas de la Galaxie Red Bull, ça veut pas dire grand chose, parce qu'il y a Salzbourg, si tu veux, s'il y a des filières.
Ouais.
Zabitzer, c'était un ancien.
Non, mais à Leipzig.
Mais ça marche. Bah, je viens de t'expliquer. Il y a une galaxie. C'est une galaxie.
Oui, la galaxie, c'est dire un club. Vous êtes
pas parlé de club. Je parle de Leipzig.
Mais non, mais tu peux pas, Lionel, en fait. Tu peux pas prendre en considération Leipzig sans prendre en considération le système qu'ils ont mis en place aussi à Salzbourg, à New York. Ils ont des clubs filiales. En fait, si tu veux, c'est une espèce de grande copie.
On peut pas comparer. Alors un club, on peut pas du tout comparer Leipzig à un club français. Non, c'est incomparable.
Bah ouais, c'est incomparable.
C'est incomparable.
Ouais. Incomparable.
Donc ça sert à rien qu'on se batte entre nous.
Non, mais la structure qu'ils ont développée,
ça sert à rien qu'ils se rencontrent, quoi, parce que de toute façon il y a rien de comparable.
Ah oui, mais
ils
peuvent se rencontrer.
À moins que Lyon fabrique une structure identique où une entreprise va prendre 3-4 clubs dans le monde pour faire circuler ses joueurs, recruter, développer un scouting de pointe pour prendre des mecs à droite à gauche et les former, tu n'y arriveras pas avec un directeur du football. Non, Leipzig, c'est vraiment un modèle complètement particulier.
Non, alors,
je vois pas qu'en France pourrait développer un truc comme ça. En revanche, quand on parle de petits clubs, soit formateurs, soit comme l'Atalanta qui recrute des mecs pour pas cher, qui bricole et qui a surtout un entraîneur qui développe sur plusieurs années une identité très particulière avec des joueurs intelligents, ça peut être plus quelque chose qu'on devrait pouvoir faire chez nous.
Les gars, clôturons le chapitre.
Pas à Leipzig, c'est trop.
J'ai juste un dernier tweet d'Alex qui me dit, qui est supporter niçois, il me dit, si on pouvait envoyer Vieira faire un stage chez Gasperi ou Nagelsmann, s'il vous plaît. Voilà, parce que ça a séduit pas mal de supporters de clubs de Liga, ce qu'on a vu ce soir, donc que ce soit en Italie.
Aussi, on pourra y revenir.
Ou en Angleterre avec
n'oublions pas les entraîneurs. Moi qui pendant des années j'ai tapé sur les entraîneurs français et à juste titre et sur la formation, et on en a parlé, on en parle très souvent. Attention, en France les entraîneurs ont changé, beaucoup d'entraîneurs ont changé et ont des idées, pour beaucoup en tout cas, beaucoup plus qu'il y a quelques années, positives sur le jeu, sauf qu'ils se heurtent à quelque chose, c'est un recrutement inexistant et une formation de joueurs aujourd'hui. Ce que fait Gasperini, si tu prends des joueurs formés en France, Ils n'ont pas dans leur bagage footballistique et intellectuel la capacité à jouer de cette façon. Ils ne sont pas faits pour. Tu ne trouveras pas des joueurs capables, ou même comme fait Nagelsmann, de comprendre ce genre de consignes, parce qu'ils ne sont pas formés à ça, à jouer à 7 devant le ballon, à travailler ce genre d'exercice-là. C'est pas fait pour un mec comme Paulo Sousa, un discours sur le foot, s'il va jouer en Allemagne, ses équipes elles vont jouer vraiment autrement. Et on en a, et même Vieira, je suis sûr, s'il va en Allemagne, ses équipes vont jouer autrement. Les entraîneurs ont beaucoup changé en France, mais ils n'ont plus la matière. C'est à ça qu'il faut penser aussi.
Nkunku, il pouvait pas rester en France avec un nouvel entraîneur comme tu dis, avec les nouvelles
idées. Nkunku, il aurait pu, mais ah ouais. Il a fait ce choix qui, à mon avis, non, il a bien fait.
Pourquoi ils font le choix de partir à l'étranger?
Le mec, il est au PSG. Au PSG, il a joué un peu, mais il n'arrive pas à complètement jouer. Le mec qui est au PSG en France,
il est parti pour Leipzig, c'était la même chose.
Il est formé au club, il a une telle opinion de lui-même que c'est l'étranger ou rien. Il redescend pas en France après le PSG, c'est très rare. Donc il va, et puis surtout Leipzig a un projet qui est quand même
Quand il y va, il est remplaçant.
Remplaçant, ça veut pas dire.
Ouais, mais là-bas, ça tourne.
Il a des turnovers. Il a mis, parce que Nagelsmann en fait beaucoup. Il y a différents projets de jeu. Une fois tu joues avec 4 attaquants, une fois tu joues avec 3 seulement, etc. Et en plus, il y a des joueurs. Là, par exemple, Nkunku joue encore plus depuis les matchs retour, mais c'est le même pour le jeune espagnol Olmo, parce que il est passé dans un système en 3-4-1-2 avec un véritable meneur de jeu derrière 2 attaquants. Mais Forsberg.
Au-delà de ça,
Plein de joueurs, même français, quand ils arrivent en Allemagne.
Exactement. Je veux en venir, c'est-à-dire que les comportements de nos joueurs français dans le championnat de France sont complètement différents lorsqu'ils franchissent la frontière.
Absolument.
Pourquoi je ne l'explique pas, je ne le supporte pas.
Mais ça, tu as, alors, 1000% raison.
Et ça, c'est quelque chose quand même. Pourquoi on se permet des choses en France, enfin, dans les clubs en France, et notamment chez.
Ça s'appelle le process d'autorité que tu retrouves dans tous les secteurs
Je ne comprends pas.
Déjà, tu retrouves ça dans plein de secteurs de notre société.
Oui.
Déjà, le rapport à l'autorité,
on peut chercher des ésotériques, du mysticisme, tout ce qu'on veut pour expliquer le comportement. Moi, j'ai une analyse beaucoup plus pratique à ce niveau-là. Les clubs français professionnels n'équilibrent pas leurs comptes, donc ils doivent vendre pour équilibrer leurs comptes. À partir de ce moment-là, le mec qui soit bien dans sa tête, mal dans sa tête.
Il sait que de toute façon, il est là de passage, il sait la matière pour être vendu. Donc il ne va pas s'investir là, il sait qu'il sera vendu.
En Allemagne, les clubs équilibrent leurs comptes.
C'est la même chose. Leipzig, c'est la même politique.
Non,
ils veulent garder les joueurs maintenant. Leipzig, ils les gardent.
Mais en plus, c'est surtout que les clubs allemands équilibrent leurs comptes. Je vais donner un exemple très simple qui est aujourd'hui un joueur de Leipzig, chez Kempel. Ce joueur sortait du centre de formation de Leverkusen. Excusez-moi pour le mot, c'était un petit branleur.
Il joue pas à Gladbach, Kempel?
Non, Kevin Kempel.
Je le confonds alors.
Kevin Kempel. Il fait un petit branleur du centre de formation. Rudi Völler savait très bien qu'il valait beaucoup sur le marché. Il n'en a eu rien à faire. Il l'a pas gardé. Tu dégages. Et ils l'ont même racheté plus tard quand il était redevenu un joueur entre guillemets.
En France, on fait pas ça. On le laisse tout faire parce qu'il va être vendu. Et les clubs vivent de ça.
Alors les gars, faut qu'on avance.
Le mec fait tout.
J'ai juste un petit tweet de Tres Maria qui lui dit on lui dit à Lionel que Polo considère qu'il y avait faute sur l'Islande.
Ah oui, on en a parlé l'autre soir. T'étais pas là. T'ai défendu, évidemment.
Non, j'ai pas.
On a parlé du fameux match et il fait.
Ouais. Après, il nous a expliqué qu'il n'y avait pas faute de Schumacher, évidemment. Bon. Il est choqué.
Jusqu'à maintenant, je pensais que tu connaissais un peu le football. Je vous avais fait ce pas de faire la peur parce qu'il y avait
Polo. Il s'agit de football, là. Il s'agit d'hommes.
Vous ne parlez que des virgules, en fait.
Alors, deux petites choses pour conclure, Polo. Le patron du Dortmund, a eu cette déclaration hier soir. Il a dit, le PSG, ils ont le traumatisme de United. Pour eux, le monde va s'effondrer s'ils sont éliminés. Du coup, je crois qu'on a maintenant un avantage psychologique. A dit Vatske hier.
C'est tout à fait exact. Et puis derrière, évidemment,
on va parler du PSG dans quelques instants.
Évidemment, Vatske oublie que c'est un club qui est quand même coté en bourse pour aller chercher, pour lever de l'argent, comme on dit. Et il se réfugie, évidemment, derrière le système associatif allemand. Et donc, lorsqu'il dit que le monde va s'écrouler, moi, je de mémoire, la phrase exacte, c'était leur monde va s'écrouler. C'est-à-dire que derrière, ouais. Si tu veux, c'est le.
Oui, c'est peut-être ton fantasme, parce que moi, j'ai lu Le Monde.
C'est fort possible.
Polo. Oui, je sais que t'aimerais bien que ce soit ça.
La traduction française, mais je voulais bien retrouver la
phrase. J'ai eu confiance en Polo sur l'allemand.
moi, je suis moins sûr de ça.
Non. Il s'agit pas d'allemand. Il s'agit de volonté de comprendre comme ça l'art.
Moi, je veux revoir la phrase.
Sinon, je sais pas si t'as vu passer la stat. Ça me surprend tellement que j'aimerais bien en être sûr trois fois. Il paraît que Leipzig a couru 124 km.
M'étonne
pas. Ça me semble complètement délirant.
Oui, je te confirme,
ça,
Daniel.
Ça m'étonne pas.
C'est délirant. 124, c'est délirant.
Et hier, vraiment. Paris, 105. Pour un titre de comparaison.
Mais c'est normal, ils ont fait un match de sénateur.
Mais
on va conclure également avec Julien, s'il vous plaît.
C'est énorme, 124.
Et Coucou était déjà 6 km à la mi-temps.
Julien, j'ai une question très claire à te poser. Est-ce que hier soir, après la défaite de Liverpool, tu as eu le frère d'un joueur de Liverpool qui a insulté Klopp? Est-ce que tu as eu un autre joueur qui jouait pas, qui a dit moi je voulais jouer, mais on m'a empêché de jouer? Est-ce que tu as eu un gars qui était pas au courant, qui pouvait être suspendu avec un deuxième carton jaune?
Non, on n'a pas eu ça, nous.
Donc, il y a eu tout ça à Paris, et donc on va en parler dans
ça. C'est ce que j'ai cru comprendre.
Ça manque de vie chez toi.
Ça manque un petit peu de vie, mais effectivement, mais
tu
non,
je suis
pas encore arrivé en Angleterre. Et on en revient effectivement aux attitudes des joueurs français, ou en tout cas en France et à l'étranger. Et à Liverpool, personne se permettrait de.
L'interview stratosphérique de Serge Aurier dans France Football mardi. Où il revient sur l'affaire Periscope en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? En France, on m'est tombé dessus pour ça. En Angleterre, ça serait pas arrivé. J'ai envie de lui dire, écoute mon vieux, essaye de dire en Angleterre que ton entraîneur est une grosse pipe. J'ai bien envie de voir s'il va rien se passer.
Tu fais pas la moitié
surtout
de ça.
C'est pour ça qu'il l'a pas fait. Hein.
Non mais lui, il est convaincu dans l'interview que c'est les médias français qui lui ont coupé la tête par rapport à ce qu'il a fait. On est dans le délire le plus complet. Quoi, mais bon.
Merci Paulo en tout cas.
Merci à vous les gars.
Et merci Julien également.
Merci.
Bonne soirée. Juju. Dans quelques instants, le PSG, on va vous raconter tout ce qui s'est passé hier soir, dès le coup de sifflet final et jusqu'à cet après-midi, hein, parce qu'il y a eu de nombreuses choses. Et on en débat, bien sûr, tout ça après la défaite d'hier soir face au Borussia. À tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là. Messieurs, attention, écoutez bien ce qui se passe parce que RMC vous offre un cadeau exceptionnel. On vous envoie tout frais payé assister à la finale de la Ligue des Champions. C'est le 30 mai prochain, un samedi soir. Vol, hébergement, vos places pour la finale à Istanbul. Donc pour remporter ce cadeau de rêve, il faut envoyer, si vous voulez participer, le mot finale par SMS au 732-16. Finale par SMS au 732-16. Bonne chance à tous. Attention, le PSG, s'il vous plaît. Musique. Et oui, parce que le PSG, il s'est passé de nombreuses choses hier, après le match. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Fin du match, Loïc Tanzi dans la zone d'interview traînaille un petit peu, et là, pam, il tombe sur Neymar, dis donc. Ah, il va le voir, il discute un peu.
Donc le bordel, c'est la faute à Lolo.
Et non, il fait son boulot, Loïc, je le félicite, officiellement. Et là, Neymar lui dit, mais attends, moi, en fait, c'est pas mon choix, moi, c'est le choix du club, je voulais jouer. Écoutez.
C'est difficile de rester 4 matchs sans jouer. Ce n'était pas mon choix. C'est le club qui a pris cette décision avec les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n'ai pas aimé. Je voulais jouer. Je me sentais bien. Le club a eu peur. Et ça retombe sur moi.
Et voilà. Et cette déclaration aujourd'hui met le feu.
Phrase importante.
Met le feu aujourd'hui au Paris Saint-Germain. On va revenir sur tout ça, Daniel. Hein. Je fais le résumé vite fait là.
Ouais, je peux faire un petit commentaire à chaque fois. J'ai une petite phrase.
Ouais, tu peux une petite phrase.
J'ai juste dit le club a eu peur. Phrase importante.
Aujourd'hui, évidemment, le service médical est foudrage.
J'acquiesce.
Voilà. Et il dit mais non, mais attendez, ça se passe pas comme ça. Est-ce qu'on a visé Leonardo, pas Leonardo? Parce que c'est peut-être le message que veut aussi faire passer Neymar. C'est qui a décidé? Ça semble être Leonardo quand même. Parce que Tourelle a eu aussi des déclarations. Les hommes, mais moi. J'aurais bien aimé faire jouer, mais on m'a dit que vous pouvez
pas. Moi, personnellement, donc. C'est ce que je pense.
Voilà. Donc, ça, c'était après le match. Après, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit que le frère de Kimpembe, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il lui a pris à celui-là, il insulte sur Instagram Tourelle, fils de machin, etc. Voilà, comme ça, gratos.
Un classique de la mentale française.
À tel point que Kimpembe a dû aller aujourd'hui.
Jurisprudence oreiller, on est peinard entre nous.
Voilà.
Mentale de racaille classique.
Donc là, Kimpembe a dû aujourd'hui aller s'excuser, lui. Au nom de son frangin, en quelque sorte, auprès de Tourelle lors de l'entraînement à l'UCLE du jour, hein, ambiance. J'ajoute à ça que Meunier, dans la zone d'interview hier, lui aussi discute comme ça tranquillos avec un journaliste belge.
Là, c'est mental de neuneux.
Et là, il lui dit mais oh, bah attends, moi je prends le jaune, mais si j'avais su que je pouvais être suspendu, bah, je serais pas allé faire cette faute. Donc, on te dit qu'en huitième de finale, aller de Ligue des Champions,
ça, c'est même pas comment
personne n'est allé dire à Meunier, attention, Coco, tu risques d'être suspendu. Allez, on est où là?
T'as fait 2-3 matchs toi dans ta carrière quand ça se passe?
Nous, on savait pas.
Y a pas quelqu'un,
On savait pas si on était sous un carton jaune ou si on allait prendre une suspension. Il y avait quelqu'un, c'était Dominique Cuperli qui l'adjoint, parce que nous on pouvait pas se mélanger, qui tenait les comptes et qui disait fais pas le con.
Il te disait avant le match.
Nous personnellement on ne le savait pas.
Bah, non mais il y avait bien quelqu'un qui venait te le dire.
Bien sûr, mais c'est tenu, mais c'est une obligation.
Et d'avertir les joueurs.
Non, c'est le béaba.
Donc, et dans tous les clubs. On est d'accord que l'histoire est hallucinante.
Aux Rangers, oui. Est-ce qu'on lui a dit et il n'a pas écouté?
Tu voudrais que ce soit encore pire alors?
Ça peut être pire.
On lui a dit, il n'a pas compris. Alors là, ce serait.
Non, il n'a pas écouté. C'est possible. Fois, tu sais, tu n'écoutes pas dans la concentration.
Non, c'est ce que disent les profs, c'est à cause des écrans.
Non, mais c'est fort possible. Attends, je sais pas de le. Mais.
Et attention, c'est pas fini.
Quand même que c'est fait au PSG.
C'est pas fini.
J'ose espérer.
Le PSG Comedy Club continue avec Van Dijk, Cardi. C'est marrant parce que elle dit rien depuis quelques semaines. En fait, finalement, c'était assez calme. Et là, hier, Pam, elle aussi sur les réseaux sociaux, elle dit oui, bon, on sait pas trop. On sait pas trop où on habitera l'année prochaine.
Ah mais ça, il ne fallait pas vous attendre à d'autres choses. Ça a été la même chose en Italie, ça a toujours été. Et j'ai annoncé depuis le début, le jour où Icardi a signé, j'ai dit attention, il va falloir gérer sa femme. Et honnêtement,
bah elle a attendu une défaite en Ligue des Champions pour se réveiller.
Ah ben là, il y a deux matchs.
Ah mais c'est pas
Vanda, Vanda ne supporte pas.
Non mais ça
elle voit son mari sur le banc, il y a un problème.
Voilà, je vous ai fait ça. Et alors là, je suis pas rentré dans le détail des déclats de Tourelle qui a comparé le match d'hier à celui de Dijon et compagnie. Hein. Donc là, je suis resté sur les faits d'après-match. Voilà, on peut conclure là-dessus.
Quel message vous avez apporté aujourd'hui aux millions de supporters parisiens? Quel message vous avez à leur dire? Scouse.
Voilà. Bon, ça, c'était pas hier soir, hein, vous le savez, évidemment. Lionel, ouais. Daniel était hier soir dans l'after, donc on a fait un after en direct de Dortmund. Toi, quand tu as vu ce match, quand tu vois tout ce qui se passe, même après, le contexte global, même ce qui se passe avant, qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir sur le PSG?
Moi, j'ai envie de dire que 2-1, dans le contexte dans lequel s'est mis le PSG dans la gestion de son effectif, avec surtout, et je mettrai en haut, en tête d'affiche, cette histoire de Neymar, la peur de ne pas voir, parce qu'il a raison quand il dit les dirigeants avaient peur que je ne joue pas. Cette peur-là a rejailli sur tout le monde. Elle a rejailli sur Tourelle dans la gestion de tout son effectif. Parce qu'un PSG qui joue avec Neymar ou sans Neymar n'est pas du tout le même PSG. Ça n'a rien à voir. Donc, à partir de là... tout tes tactiques, tes machins, tes temps de jeu. Quand je regarde les temps de jeu, alors c'est comment ne pas faire jouer, comment privilégier Neymar si tu vas pas privilégier Mbappé, tu vas froisser l'autre. À l'arrivée, tu fais 15 jours où tu fais jouer seulement trois de tes joueurs sur deux matchs. Ils ont fait deux matchs où ils n'ont pas joué. C'est énorme. Quand tu regardes en face Dortmund qui fait jouer tous les quatre jours, j'ai repris le calendrier de Dortmund. Ils ont joué depuis le 4 février exactement le même nombre de matchs que le PSG, avec tous les joueurs. Eux, ils n'ont pas fait tourner. Il y a deux joueurs qui ont tourné seulement. Au PSG, il y a trois joueurs. Enfin, je te jure, c'est une gestion de l'effectif. C'est hallucinant. Tu ne peux pas préparer un match. C'est impossible. On n'était pas d'accord avec Willy. Tu ne peux pas préparer un match de cette envergure avec ce rythme que tu dois avoir en Champions League en mettant les gars dans une infirmerie, chez eux, ou à la télé, ou n'importe où. C'est impossible.
Moi, je suis absolument d'accord avec toi.
C'est impossible.
Cette prise de tête, de toute façon, n'est dictée que par une chose. Toute la préparation du PSG n'est dictée que par une chose, la peur.
La peur. Ils ont eu peur qu'un Neymar ne joue pas encore ce huitième de finale. Et autour de ça, tout est. Et je pense pas, honnêtement, que ce soit Tourelle le seul décideur de tout ça. Je pense que Léo aussi en fait partie. Et que Neymar, ce qu'il a dit en fin de compte, il aurait pas dû le dire. Ça m'emmerde parce qu'il y a des choses. À un moment donné, tu dois laver ton linge sale. Mais si on en est là aujourd'hui, il y a 15 jours, il y a 3 semaines.
Il le lave en pensant à lui parce qu'il sait très bien qu'il a été mauvais.
Pour se dédouaner.
Exactement.
Pour se dédouaner, bien évidemment. Mais on est dans une. Alors ça aussi, ça ne devrait. Je n'excuse pas ça non plus, hein, personnellement.
Mais il n'y a rien à excuser.
Il y a 15 jours, 3 semaines, honnêtement, je voyais la dynamique de Neymar. Je voyais la dynamique du PSG qui ne faisait pas tourner il y a trois semaines à moi. Mmh. Et tout allait très bien.
Mais après, la peur revient comme chaque année.
Ben, tout d'un coup, tu te mets avec cette gestion Neymar et tout d'un coup, tout change. Tu veux gérer un élément, tu es obligé de gérer tout un effectif. Ben et avec cette gestion de cet effectif, c'est tout ton jeu qui s'évapore. Tu te mets du caca dans le cerveau. Tu vas te faire peur à Amiens quand on dit « Ah ouais, mais non, Amiens, 4-4, mais non, on s'en fout et tout. » Amiens, à la mi-temps, les mecs, il y a quand même une prise de conscience, il y a quand même tout ça. Tu ne peux pas préparer, je n'ai jamais vu une grande équipe préparer un match en te prenant, en jouant mal contre l'US Pantoufle. C'est pas possible. Franchement, ça n'existe pas. Là, ça existe au PSG.
C'est un club de Tahiti, ça, l'US Pantoufle ?
L'US Pantoufle, je sais pas. Non, mais ça n'existe pas. Enfin, pour moi, dans ma conception. Après, t'en as qui ont une autre conception, qui arrivent de grands clubs, qui vont gérer autrement. Mais moi, ça, pour moi, ça me met hors de moi. Et honnêtement, j'avais annoncé, parce que quand PSG joue, je suis pour Paris. Quand Marseille joue, je suis pour Marseille. Je suis français. J'avais annoncé un 2-2, mais je voyais une défaite quand tu fais 4-4 contre Amiens. Tu peux quand même t'attendre à une défaite à Dortmund.
Alors, on en a beaucoup parlé hier soir. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un papier sur le site et je suis absolument d'accord avec Lionel. Donc, je vais essayer d'aller plus loin en me posant la question maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le PSG doit faire? Trois semaines, c'est long.
Mais c'est ça, Daniel score... on va avoir la réponse, tu sais. La réponse, ça va être simple. Excuse-moi, Daniel, je te coupe. La réponse, on va voir si ce que j'ai dit... j'ai raison ou pas, on va voir la gestion de l'effectif maintenant dans les trois prochaines semaines avant de recevoir Dortmund.
Moi, je ne parle pas que de ça.
Pour la gestion de l'effectif, on verra s'ils vont continuer à faire tourner ou s'ils vont mettre l'effectif.
Le score n'est pas négatif. C'est un 50-50.
Pas du tout.
Un 2-1, ça se retourne en faisant un gros match. Tu as les joueurs pour le faire, ok. Et trois semaines, c'est long. Ça laisse du temps.
Pour tout.
Se remettre.
Pour tout.
Mais attention, le PSG ne peut pas se remettre parce que le PSG a cette maladie au plus profond de lui. Aujourd'hui, exactement comme j'avais dit, Emery est mort au Camp Nou. Tuchel, il lui est arrivé la même chose l'année dernière contre Manchester United. Je préconise un électrochoc fort. Je pense que la bonne décision serait de virer Tuchel maintenant.
Non.
Je termine. De toute façon, Tuchel va partir.
Allegri est à Paris demain et il sera là dans Team Liga. Apparemment, je le glisse quand c'est en passant.
Tuchel partira. À moins, je ne sais pas, de gagner la Ligue des Champions et encore. Il va partir. Autant anticiper le truc, puisque avec ce qui s'est passé pour Neymar, qui visiblement s'est désolidarisé avec ses déclarations, la gestion de l'équipe, cette compo, le mauvais message qui a été envoyé à ce moment-là. De toute façon, je pense que les joueurs ne sont pas attachés à lui. Ils ne développent pas un grand affect au-delà de sa surcommunication de quand il est arrivé. Un choc maintenant, mental, je pense serait bénéfique et me ferait y croire encore plus que j'y crois parce que malgré tout, j'y crois quand même encore.
Ils vont se qualifier.
Je pense que vraiment maintenant le faire... Chelsea l'avait fait, de changer d'entraîneur en cours de route et au fond du trou, était même allé gagner la Ligue des Champions en 2012. Ça arrive de changer en cours de route, le Bayern l'a fait, c'est possible, et de faire une bonne saison derrière. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être un handicap de le faire. Je ne vois pas en quoi, au contraire, ça ne pourrait pas être au moins un minimum bénéfique. Et comme il n'y a aucun handicap à le faire, autant le tenter, le coup. Autant tenter l'électrochoc maintenant. Si c'est pas Allegri qui est à Paris effectivement demain et qui de toute façon lui est dispo, frais, il vient direct, que tu veux tenter
un grand pote,
je sais pas si Pochettino peut prendre en route, mais déjà t'as deux très bons entraîneurs qui sont sur le marché. Et même au pire, Leonardo en intérim jusqu'à la fin de la saison, quoi qu'il en soit, ce sera mieux. Ce sera mieux. Ce groupe a besoin de prendre une claque dans la gueule.
Alors Daniel, je précise que demain on a un after de 3 heures. On aura largement le temps de revenir sur tout ça avec Jérôme Rotten qui sera avec nous. J'aimerais que Ando, 32-16 qui est là, dise s'il est d'accord avec toi. Ando, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Ando.
Bonsoir Lionel. Je suis parfaitement d'accord avec Daniel et je m'étonne même d'être autant d'accord. Ils ont besoin d'un choc. Moi je voulais revenir sur la communication mais je vais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut bien se débarrasser de Tourelle. dès maintenant parce que il n'apporte rien. On disait que la rigueur allemande c'était peut-être l'avantage de son arrivée, que dalle. D'un point de vue tactique, on va pas revenir là-dessus, mais au final il a pas respecté ce qu'il avait préparé, et donc arrêter maintenant ça changera rien vu que hier il l'a pas respecté. Tu disais sur les 3 semaines, Daniel, qui vont arriver, je suis d'accord avec toi, ça va être très long et ça va être encore plus long suite à ce qui s'est passé, ce que vous avez énuméré sur ce qui était dit dans les médias. C'est-à-dire que hier, le PSG a perdu 2-1, a fait un non-match en première mi-temps, et t'as quand même sur 11 titulaires, 6 qui se sont exprimés dans les médias en recommandant le match. Alors, il y a les obligations de l'UEFA, il faut répondre aux médias, etc. Ça, il faut revenir là-dessus, mais il faut rebondir aussi sur ce qui a été dit. Alors, reconnaître qu'ils n'ont pas fait un bon match, ça a été dit par Thiago Silva, par De Marquinhos. Là où ça devient lunaire, c'est de se dire qu'en communication de crise, tu parles le moins possible. Dire que tu n'es pas au courant que tu peux être suspendu pour prendre un jaune, c'est lunaire. Dire que ton effectif a un problème de confiance, c'est lunaire. Dire que tu as été préservé, tu étais contre le fait de ne pas jouer à 4 matchs, c'est lunaire.
Nous, on a préféré mettre la musique de Benny Hill parce que c'était plus drôle que mettre un truc lunaire, tu vois. Mais
comprends-nous, supporters du Paris Saint-Germain, quand on est un minimum passionné, et même dans l'intérêt du football français, c'est lunaire de voir une équipe qui a autant de moyens et se saborder toute seule. Toute seule. C'est-à-dire que là, il y a des mecs qui sont à la fois joueurs de foot, employés du club et qui desservent l'intérêt du club en termes d'image et sur le plan sportif qui ruinent tout le travail qu'ils ont fait depuis le début de la saison. On disait qu'ils devaient faire quelque chose de grand cette année parce qu'on ne les attendait pas. Il y a une masterclass de Leonardo qui dit calmez-vous tout le monde.
On s'est peut-être un peu excité d'ailleurs sur cette histoire. Ce que je propose, c'est que on se rappelle demain, on aura le temps demain de prendre justement le temps de parler de tout ça dans le détail, de revenir 48 heures plus tard sur ce qui s'est passé et de décrypter. J'aimerais juste qu'on se quitte avec une petite interview de Mourinho. Il a pété un plomb après son équipe. On n'a pas le temps.
La fureur, tu vois.
Voilà. Demain, on passera demain parce qu'il dit Leipzig, c'est fantastique. Et nous, on était nuls. Voilà, en gros, je schématise, mais voilà ce qu'a dit Mourinho ce soir.
C'était pas une chanson, ça ?
Non,
c'était le plastique.
Ah, pardon.
C'était pas une super chanson.
Il a dit, c'est comme si on était parti à la guerre sans armes, dit-il, Mourinho.
Un groupe un peu...
Merci, Lionel.
Bah, merci, copain. Dommage, je suis pas là, j'aurais pu, mais bon...
Tu reviendras.
On passe un coup de fil. Non, je vous écoute, les gars, je vous écoute.
Daniel, demain 21h, donc, avec Jérôme Rantin, Damien Périnel. Pardon ?
Il y a un besoin chez lui d'être un peu dans la star.
Non, mais j'aime bien parce que on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas.
T'es ça, bienvenu, tu fais même partie de la bande là. Survivor, t'es pas très bon, mais on est content que tu sois.
Survivor, j'entends jamais parler de toi, Lionel.
Comment ?
À Survivor,
tu fais souvent sortir.
Je me suis fait sortir par le PSG.
Oui, bah voilà, comme nous tous. À demain 21h dans l'after.
Comme beaucoup à mon avis.
Bonne nuit à demain.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.